Alors nous commencerons par contempler le mystère de la Sainte Messe, ce qu'est la Sainte Messe, et ensuite nous en viendrons à la façon avec laquelle nous devons assister, participer à la Sainte Messe. Alors d'abord, il faut regarder ce qu'est la messe. Et pour cela, il faut essayer d'avoir le regard du bon Dieu lui-même sur la messe. Le regard du bon Dieu sur la messe découle du regard qu'il a sur la créature, voyez. C'est-à-dire que tout lui appartient. Tout lui appartient. Toutes les créatures sont à lui parce que c'est lui qui les a faites. Et si nous, nous possédons des choses, c'est parce qu'il nous les prête en fait. L'homme est véritablement possesseur, mais il l'est parce que Dieu lui donne les choses qu'il a faites. Et par conséquent, si tout lui appartient, l'homme a le devoir de montrer au bon Dieu que tout lui appartient, que tout est à lui. De reconnaître le souverain domaine de Dieu sur toute chose, et en particulier sur sa propre personne, sur nous. Je dois, il est juste que je reconnaisse le souverain domaine de Dieu sur tout et sur moi-même. Et comment va se faire cette reconnaissance? En détruisant une chose. En détruisant une chose que Dieu m'a donnée, je montre qu'en fait, le bon Dieu a le pouvoir de la détruire parce que cette chose lui appartient. Et c'est le sacrifice. Le sacrifice tout entier est là. Le sacrifice, c'est donc cette destruction, en même temps que cette offrande faite à Dieu. Cette destruction d'une chose sensible, matérielle. Destruction opérée par l'homme, par un homme, pour montrer que tout est à Dieu. Et le sacrifice est agréable à Dieu, parce que Dieu, en voyant le sacrifice, voit que l'homme le reconnaît comme souverain. Et voyez que le sacrifice est une réalité naturelle. Il est naturel à l'homme de sacrifier, parce qu'il est naturel à l'homme d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le souverain maître de toutes choses. Dans la religion de l'Ancien Testament, il y avait déjà des sacrifices, parce que toute religion comporte un sacrifice. Puisque par la religion, je me relie à Dieu, ou Dieu me relie à lui, ce lien de l'homme à Dieu comprend l'adoration. Et l'adoration comprend le sacrifice. Donc il y a toujours eu des sacrifices dans la religion juive. C'était des boucs, des taureaux, des oiseaux. Et même dans les fausses religions, il y avait des sacrifices. Dans les religions païennes, par exemple, il y a toujours eu des sacrifices. J'ai vu en Afrique, dans un pays d'Afrique, un village dans lequel nous sommes allés, dans lequel il y avait eu le matin un sacrifice humain. Ces horreurs ont encore lieu aujourd'hui. C'était il y a bien 10 ans, plus même. Mais il y a toujours eu des sacrifices. Et ces sacrifices humains montrent que l'homme veut reconnaître que Dieu a emprise sur lui. Mais évidemment, ils ne sont pas légitimes. Évidemment. Ils sont illégitimes parce qu'on n'a pas le pouvoir de tuer, on n'a pas le droit de tuer, que ce soit nous-mêmes ou un autre. Mais dans le sacrifice qui n'était pas un sacrifice humain, comme dans les sacrifices de l'Ancien Testament, les victimes tenaient la place de l'homme. Parce que justement, les hommes savaient bien qu'ils n'avaient pas le droit de s'offrir eux-mêmes en victime ou d'offrir un autre homme en victime. Alors ils prenaient des animaux, des choses matérielles, qu'ils offraient pour montrer que tout appartenait à Dieu. Alors ces sacrifices sont d'abord donc, comme nous l'avons dit, une reconnaissance que Dieu possède tout, que tout est à Dieu. Mais depuis le péché originel, le sacrifice est encore autre chose, c'est une demande de pardon. J'ai péché et pour racheter mon péché, je vais offrir un sacrifice, une expiation. Le problème, c'est que la gravité d'une offense dépend de la dignité de la personne offensée. Et que, dans le cas de Dieu, quel sacrifice peut racheter une offense faite à Dieu ? Dieu étant infini, la gravité de l'offense est infinie. Le péché mortel est d'une gravité infinie. Et donc, pour le racheter, il faut un sacrifice d'une valeur infinie. Or, si j'offre un bouc ou un taureau ou une paire de colombes, est-ce que cela peut avoir une valeur infinie ? Non, bien sûr. Et par conséquent, saint Paul, dans ses épîtres, nous dit bien que tous les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient rien faire pour nous rendre Dieu propice. Parce que la gravité de l'offense faite à Dieu par Adam et Ève était telle, la gravité de l'offense faite par nous, par les hommes, entre Adam et Ève et puis notre Seigneur Jésus-Christ était telle, qu'aucun sacrifice ne pouvait satisfaire le bon Dieu. Il faudrait un sacrifice infini. Alors le bon Dieu toujours regarde la terre, il regarde les hommes, il nous voit. Et il nous voit incapables de sacrifier, incapables d'adorer comme il faut, incapables de sacrifier comme il faut, incapables de nous racheter comme il faut. Parce que tout ce que nous pouvons offrir est fini, nos actions sont finies, tout est fini là-dedans. Et nous ne pouvons pas sacrifier de façon infinie. Alors le bon Dieu se fait homme. Il dit, puisque l'homme est incapable, je vais moi-même me faire homme. Il se fait homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va monter lui-même sur l'autel du sacrifice pour adorer Dieu, pour obtenir le pardon des hommes. Et cette fois-ci, le sacrifice est parfait. Cette fois-ci, le sacrifice a une valeur infinie. Comme le dit notre Seigneur à la Samaritaine, il viendra un jour où les hommes adoreront en esprit et en vérité. Et en vérité. L'adoration en vérité, l'adoration parfaite, annonce-t-il, c'est la messe, c'est la croix, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Grâce au sacrifice, nous pouvons adorer en vérité. Donc le sacrifice de la croix est le seul vrai sacrifice de toute l'histoire de l'humanité. Les autres sont des sacrifices imparfaits, qui ne peuvent pas être dignes de Dieu. Mais ce sacrifice a pour victime l'homme-Dieu. Et celui qui sacrifie la victime, c'est encore l'homme-Dieu. C'est l'homme-Dieu qui s'offre lui-même. Quand Abraham prend son fils Isaac, Abraham amène son fils Isaac et le met sur l'autel. Dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur qui se met sur l'autel lui-même. Évidemment, on pourrait dire aussi que c'est le Père qui offre le Fils. Mais c'est Dieu qui s'immole, bien sûr, dans sa nature humaine. On ne peut pas immoler le bon Dieu, on ne peut pas détruire le bon Dieu. Mais la nature humaine de notre Seigneur est morte sur la croix, c'est le sacrifice. Et la messe, c'est la croix. Ça, c'est vraiment identique. La messe est identiquement la croix. La messe est identiquement le calvaire du Vendredi Saint. C'est une seule et même chose. Ce n'est pas deux choses, c'est une seule et même chose. Ça, c'est vraiment une vérité de foi qu'il nous faut répéter aujourd'hui, parce que vous savez que avec la nouvelle soi-disant liturgie, on nous fait une synaxe qui n'est plus un sacrifice, qui passe pour une commémoration, un repas, tout ce qu'on veut. Ce n'est plus un sacrifice. Et les fidèles ont cette idée-là dans la tête. Je me rappelle avoir parlé une fois avec une personne que je connaissais et qui avait l'habitude d'aller à cette messe-là. Il me disait, mais je ne comprends pas la différence qu'il y a entre la nouvelle messe et puis la messe traditionnelle. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est pour toi la messe ? Il m'a dit, la messe, c'est la commémoration du sacrifice de la croix. Je lui ai dit, est-ce que c'est la commémoration, c'est-à-dire le souvenir ? Il me dit, oui, c'est le souvenir. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est plus que le souvenir ? Non, ce n'est pas plus que le souvenir. Donc je dis, c'est le souvenir un petit peu comme quand on représente au théâtre une scène qui s'est faite autrefois. Il me dit oui. Et je lui dis donc, ça n'est pas une seule et même chose. Il me dit non. Alors je lui dis, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La messe et la croix, c'est une même chose. Or, s'il a eu ça dans la tête, c'est bien parce que dimanche après dimanche, la liturgie actuelle lui a mis ça dans la tête. Non, la messe, c'est la croix. Bien sûr, nous verrons qu'il y a une petite différence, une différence selon le mode. On apprend tous au catéchisme que la messe, c'est un sacrifice non sanglant, tandis que la croix, c'était sanglant. Mais c'est la seule différence. La messe et la croix, c'est un sacrifice enfin digne d'adorer le Maître divin. La messe et la croix, c'est le pardon de nos péchés. Alors vous direz, mais la confession aussi, c'est le pardon de nos péchés. Oui, mais la messe et la croix, c'est le pardon de nos péchés mérités. Le sacrement de pénitence, c'est le pardon de nos péchés appliqués à nos âmes. La messe et la croix, c'est un sacrifice qui réouvre le ciel, qui était fermé aux hommes. Sans la croix, comme dit saint Augustin, nous serions massa damnata. Sans la messe et la croix, massa damnata. Attention, parce que parfois on interprète mal le massa damnata de saint Augustin. Saint Augustin dit que nous sommes une masse damnée. Et on s'en sert pour dire qu'il y a un petit nombre des élus. Mais saint Augustin, autant que je sache, ne dit pas massa damnata pour dire que nous sommes une masse damnée. Il dit que le péché originel produit de lui-même une massa damnata, une masse damnée, que tous les hommes sont damnés par le péché originel. Mais heureusement, il y a le Sauveur. Il y a le Sauveur. Et grâce à la croix, le ciel est réouvert. Et c'est en particulier pour cela que notre Seigneur est élevé de terre. Notre Seigneur devient le grand prêtre et la grande victime du sacrifice de la nouvelle alliance. Et ce sacrifice, offert une fois de façon sanglante au calvaire, sanglante, c'est-à-dire que le sang coule. Le sang coule. Par violence, il y a une séparation du corps et de l'âme. Du corps, de la chair et du sang. Et donc du corps et de l'âme de notre Seigneur. Façon non sanglante, c'est lorsque le sang ne coule pas. Par conséquent, il n'y a pas de souffrance. Bon. Au calvaire, le sacrifice est offert de façon sanglante. Il y a violence. Le sang coule. À la messe, le sacrifice est offert de façon non sanglante. Le sang ne coule pas. Pas de souffrance. Notre Seigneur ne souffre pas à la messe. Il a souffert au calvaire, il ne souffre plus. Mais c'est la seule différence entre la messe et le calvaire. La seule différence, c'est dans le mode, sanglant, non sanglant. Mais c'est une seule et même chose. Et le Concile de Trente nous dit, si quelqu'un dit que dans la messe, il n'est pas offert à Dieu un vrai et propre sacrifice, qu'il soit anathème. Et lorsque le prêtre se tourne à la messe vers les fidèles et dit « Orate fratres », il dit « Priez mes frères pour que ce sacrifice qui est le mien et le vôtre soit acceptable auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Le mien et le vôtre, parce que, contrairement à ce que disent les modernistes, les fidèles n'offrent pas la messe comme le prêtre l'offre. Mais c'est un sacrifice. Priez mes frères pour que ce sacrifice, eh bien un sacrifice, et pas seulement un souvenir. Sacrifice dans lequel notre Seigneur est prêt très victime. Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. C'est moi qui monte sur l'autel. Nul ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne. Alors voyez, je crois que ces grandes vérités de foi, c'est avec elles qu'il faut nous armer lorsque nous allons assister à la messe. Parlons maintenant donc de la façon avec laquelle nous allons assister à la messe. C'est armé de ces vérités que nous allons assister à la messe. Armé de ces vérités, en deux mots. Notre Seigneur va se sacrifier. Eh bien, nous assistons à un sacrifice d'adoration. C'est d'abord avec cet esprit que nous allons assister à la messe. Donc nous n'y allons pas d'abord pour la routine, parce qu'il faut le faire, ou parce que c'est dimanche. Nous n'allons pas à la messe d'abord pour regarder la beauté des ornements ou pour respirer de l'encens. Nous allons à la messe d'abord pour l'adoration de Dieu. Nous n'allons pas d'abord à la messe pour nous. Parce que le sacrifice est d'abord pour Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous dit « Sacrificium propter Deum, sacramentum propter homines ». Le sacrifice est pour Dieu, le sacrement pour les hommes. Nous allons au sacrifice d'abord pour Dieu. Nous allons à la messe d'abord pour le bon Dieu. Et quand les gens nous disent parfois « Monsieur l'abbé, à quoi ça sert d'aller à la messe ?» Mais ça vous servirait à rien à vous, ce qui n'est pas le cas. Ça ne vous servirait à rien pour vous, ça sert déjà au bon Dieu. Le bon Dieu est-il tellement honoré aujourd'hui qu'on puisse se passer d'aller à la messe ? Le bon Dieu a besoin d'être honoré, d'être loué, qu'on reconnaisse simplement qu'il est le maître. Alors nous allons à la messe pour ça. Mais nous allons à la messe en nous disant « Je vais à la croix, je vais au calvaire ». Et lorsque nous sommes à la messe, nous sommes comme Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. C'est comme ça qu'il faut y assister, comme la Sainte Vierge. Je suis là au pied de la croix. Et par un acte de foi, je me dis « Je suis comme au pied de la croix ». Il ne me manque rien de ce qu'avait Saint Jean, ou presque rien, quand il était au pied de la croix. Esprit de foi. Je suis bien sûr dans l'église, dans telle église, dans telle paroisse, dans telle ville, mais je suis d'abord, par esprit de foi, je suis au pied de la croix. Eh bien, déjà, quand on commence la messe dans ces dispositions-là, on est plus distrait, ou au moins, on est moins distrait. Parce que au pied de la croix, je ne pense pas que nous aurions été distraits. Je ne pense pas. Et là, nous serons plus distraits si nous avons cet esprit de foi. Notre Seigneur, là, face à moi. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Il est vraiment sur l'autel. Notre Seigneur qui se sacrifie. J'ai la Sainte Vierge à côté de moi, maintenant d'une présence mystique, spirituelle. Notre Seigneur est présent là réellement. La Sainte Vierge Marie n'est pas présente là réellement à la messe. Mais elle y est présente spirituellement. Par sa prière, déjà. Donc, comment assister à la messe ? Il faut d'abord y assister donc en s'associant au sacrifice, avec les intentions du sacrifice. Je vais d'abord adorer, tout simplement. C'est mon devoir, un devoir de justice. Le bon Dieu m'a fait, je viens lui dire, « Seigneur, vous m'avez fait, je vous appartiens, tout vous appartient, vous êtes mon divin maître. Vous êtes mon divin maître. » Voilà. Bonne pensée pour assister à la messe. Et puis, j'y vais aussi pour reconnaître que le bon Dieu, tout lui appartient, et moi aussi, et moi aussi. Et finalement, notre Seigneur prend un peu ma place sur la croix. Parce que sa nature humaine, la nature humaine de notre Seigneur appartient à Dieu. Et en mourant sur la croix, l'appartenance de la nature humaine à Dieu est manifeste. Mais finalement, ma nature humaine à moi, elle appartient aussi à Dieu. Ma petite personne, elle ne m'appartient pas. Et je viens pour dire, Seigneur, ma personne, ma petite nature humaine, elle est représentée par notre Seigneur qui est là sur la croix. Eh bien, je m'offre à vous, à travers notre Seigneur. Il est la tête de mon corps, il est la tête du corps mystique, moi j'en suis un membre. Je m'unis comme un membre à sa tête. Et nous nous offrons, notre Seigneur et moi, à vous, Père Tout-Puissant, Dieu vivant et vrai. Et cela va nous donner des dispositions d'humilité. Pourquoi ? Parce que moi, petite personne que je suis incapable d'offrir quoi que ce soit qui soit digne au bon Dieu. Digne de lui faire un vrai sacrifice. J'en suis incapable, c'est ce que nous disions tout à l'heure, l'homme est incapable. Il faut que notre Seigneur s'offre pour que enfin le bon Dieu soit adoré comme il le faut et que l'homme puisse se voir ses péchés pardonnés. Et si j'en suis incapable, ça doit me donner des sentiments d'humilité. Seigneur Jésus, il a fallu que vous montiez sur la croix pour qu'enfin on puisse prier le bon Dieu comme il le faut. Et puis je vais l'offrir en recevant le pardon du bon Dieu avec une grande action de grâce. Merci Seigneur, parce qu'en souffrant, vous souffrez à ma place, vous nous méritez le pardon de nos péchés, de mes péchés. Le ciel m'est réouvert. Si nous allions à la messe avec cette pensée, je vais à la messe, je vais là où le ciel nous est réouvert. Comme nous irions avec plus de foi, plus de désir. Je vais à la messe aussi pour demander des grâces, parce que le saint sacrifice de la messe obtient des grâces. Alors je vais demander des grâces à la messe pour développer ça. Celui qui demande des grâces à la messe avec des dispositions de vraie demande, d'humilité, de désir, le bon Dieu l'exauce. Demandez et vous recevrez. Alors il faut venir à la messe en y offrant ses demandes. Et d'ailleurs, les fidèles le savent bien. Il suffit de voir combien ils demandent aux prêtres des messes. C'est admirable de voir cette foi. Ça prouve qu'on sait bien que le Saint-Sacrifice obtient des grâces. Vous savez, on apprend au catéchisme, donc, pour résumer tout cela, que le sacrifice a quatre fins. Et donc la messe a quatre fins. La première, la plus importante, c'est l'adoration. L'adoration. On appelle ça la fin latrotique. L'adoration de Dieu. La deuxième fin, c'est l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'action de grâce, remercier. Remercie bon Dieu pour ses bienfaits. La troisième fin, c'est la demande de grâce, ce qu'on appelle l'impétration. Je vais au sacrifice et je demande au bon Dieu des bienfaits. Je lui offre la victime et je demande des bienfaits. C'est un aller-retour. Le sacrifice est un aller-retour. À la messe, lorsque nous sommes à la messe, nous offrons au bon Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ notre adoration et lui nous donne ses grâces. Et c'est pour ça que le prêtre est dit par saint Paul dans l'Épître aux Hébreux un pontife. Saint Paul reprend, c'est magnifique, il faut relire l'Épître aux Hébreux si vous avez le temps, hein, c'est une très bonne lecture, relire l'Épître aux Hébreux, en particulier les chapitres 4 à 10. Saint Paul a une vision magnifique du prêtre qui est notre Seigneur Jésus-Christ et du modèle des prêtres comme pontife. Pontife, c'est le pont, celui qui fait le pont entre le ciel et la terre, qui de la terre offre toutes les prières au ciel et qui reçoit du ciel toutes les prières, tous les bienfaits pour la terre. Le pontife, le pont. Le prêtre est un pont. Il est là pour amener les âmes à Dieu, offrir les prières à Dieu et recevoir pour les âmes les bienfaits de Dieu. Il doit être l'homme de Dieu. Impétration. Et quatrième fin, la propitiation. C'est-à-dire le pardon des péchés et l'expiation. Ce que Luther refusait. C'est une hérésie, parce que c'est deux fois que le sacrifice est propitiatoire. Voilà. Alors c'est une façon d'assister à la messe, voyez. Pendant la messe, nous pouvons simplement nous entretenir de ces idées-là. Simplement. Alors à la limite, on peut les écrire quelque part, et puis y revenir. Tiens, aujourd'hui, je vais aller à la messe en signe d'adoration, simplement. Et puis toute la messe, je m'entretiendrai de ce climat d'adoration. Ou alors, toute la messe, je vais rendre grâce. Nous ne rendons pas assez grâce dans nos prières. Nous demandons souvent, nous adorons quelquefois, mais est-ce que suffisamment nous rendons grâce? Est-ce que nous savons remercier? Remercier, c'est déjà reconnaître les bienfaits de Dieu. Il faut remercier à la messe. Il y a des âmes, lorsqu'elles font une neuvaine de demande, elles associent toujours une neuvaine d'action de grâce avant même d'avoir le bienfait reçu. Ça, c'est beau, c'est la foi. Je vais faire une neuvaine à Sainte-Thérèse pour obtenir quelque chose, et tout de suite après, je fais une autre neuvaine pour la remercier de m'avoir donné cette chose. La chose n'est pas encore donnée. Il faut savoir remercier. Donc, une première façon d'assister à la messe, c'est ça, c'est de repasser ces grandes vérités du sens de la messe, comme on dit aujourd'hui, de la nature, des fins de la messe, de les repasser dans notre cœur pendant que nous assistons à la messe. C'est la façon la plus parfaite, j'allais dire, parce que nous nous unissons aux dispositions du grand prêtre. Nous nous unissons à l'intention de Jésus-Christ lorsqu'il s'offre en sacrifice. Et il n'y a pas mieux. De s'unir aux intentions du divin maître, de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre en prêtre, de s'unir aux intentions du prêtre humain, l'abbé Dupont, qui célèbre la messe, ça c'est une façon extraordinaire, parce qu'on s'unit aux fins du sacrifice. Bien. Une autre manière d'assister à la messe, c'est toujours une manière de foi, c'est de se dire que c'est la croix, et donc de revivre les étapes de la passion pendant la messe. Alors on peut s'aider de l'évangile, c'est-à-dire, par exemple, c'est une façon, l'offertoire c'est la montée au calvaire. Je revois cet offertoire, notre Seigneur qui monte les marches du calvaire, le prêtre qui élève l'hostie, Suscipe sancte pater. Le canon, c'est le calvaire lui-même, ces longues heures d'agonie. Là, je suis là avec notre Seigneur, avec Saint Jean, la Sainte Vierge. Puis ensuite, on descend notre Seigneur de la croix. Il est remis dans les bras de sa mère. Il est remis au tombeau, la communion. Moi aussi, je reçois notre Seigneur. Bon, c'est une façon de faire, revivre la passion. Une troisième manière de faire, qui n'est pas mauvaise du tout, bien au contraire, c'est de méditer les prières de la messe. Alors bien sûr, on peut prendre son livre et puis suivre toute la messe, prière après prière. En français ou en latin, comme on veut. C'est une bonne manière de faire. Mais ça peut être aussi bien d'approfondir telle ou telle prière pour telle messe. Par exemple, cette messe-là, je vais approfondir telle ou telle prière. Toute la messe, j'essaierai de rester dans l'esprit du Suscipe Sancta Trinitas ou dans l'esprit des paroles de la consécration. Et je vais méditer sur ces paroles de la consécration en m'unissant en même temps à la messe qui se déroule sous mes yeux. Alors là, ça nécessite d'essayer de creuser un petit peu ces prières qui sont dites, qui sont magnifiques. On pourrait prendre dans le détail toutes les prières, ce Gloria in excelsis Deo, qui est le magnifique cri d'adoration. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit, pure adoration. La prière du prêtre quand il verse la goutte d'eau dans le vin, Deus qui humanae substantiae. Seigneur, je m'unis à votre sacrifice. Le vin représente Jésus-Christ, la petite goutte d'eau représente l'humanité. Eh bien, j'unis mes souffrances de la journée aux souffrances de notre Seigneur au calvaire. J'unis ma journée passée. Les sacrifices, les souffrances qui sont les miennes, les croix, les soucis que tout le monde a, je les unis, je les offre dans ce calice, je les offre sur la patène avec l'hostie à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens là et tous les soucis de ma vie quotidienne, je vais les poser, demander au bon Dieu la grâce de porter, mais aussi lui offrir tout ça en sacrifice pour les péchés. Il faut savoir unir la messe à notre vie quotidienne. Nous avons des bienfaits dans notre vie spirituelle à demander, demandons-les à la messe. Nous avons des personnes pour lesquelles nous voulons prier, prions pour elles à la messe. Nous avons une journée qui s'annonce harassante. On voit des mères de famille qui assistent tous les matins à la messe et qui ont une famille nombreuse, qui ont un gros travail, une journée qui s'annonce très pénible, qui le matin, quand elles peuvent, assistent à la messe. Ben, elles vont porter là, sans aucun doute, à la messe, leur journée qui arrive, avec toutes ces fatigues, tous ces soucis, cet oubli d'elles-mêmes. Où je vais passer ma journée dans telle et telle occasion, je vais offrir ça à la messe. Tout offrir. Un sacrifice. À la messe, il faut aussi savoir regarder le prêtre, les gestes qu'il fait. Parce que la messe, c'est un signe sensible de la grâce. Et, enfin, le sacrement est un signe sensible de la grâce. Mais la messe, si vous voulez, est une représentation, une réactualisation, plus précisément, du sacrifice de la croix, d'une façon mystérieuse, mais une réactualisation qui comprend des gestes, qui comprend des paroles. Et donc, il faut savoir regarder la messe. Il ne s'agit pas d'assister à la messe les yeux fermés. Les gestes du prêtre, les vêtements, les ornements, l'encens, les bougies, les paroles du prêtre, tout ça est un signe de ce qui va se passer sur l'autel, le sacrifice de Jésus-Christ. Et il faut savoir assister à ça, non pas par pure curiosité, en regardant, tiens, la soie est jolie, ou bien le cierge est mal taillé, non, mais en s'unissant à ce que ça signifie. Une génouflexion du prêtre, les génouflexions que nous faisons nous-mêmes, les faire avec l'esprit, qu'est-ce que ça signifie? L'anéantissement de la créature. Voilà. Assister bien à la messe, voilà ce qu'il nous faut faire. Après la messe, dans sa continuité, vient la communion. La communion. Donc pour la communion, pardon, nous allons donc commencer par voir un petit peu quelques vérités sur la communion, sur l'Eucharistie dans la mesure où elle est communion, c'est-à-dire où elle est unie à la messe, et puis la manière de communier. Alors d'abord, ce que c'est que la communion? La communion, comme le dit la Sainte Écriture, c'est Dieu caché. Deus absconditus, Dieu caché, Dieu qui se cache. Dieu qui se cache et qui se donne à manger. C'est merveilleux de voir comme à la messe, tout comme à la communion, le bon Dieu se révèle. Il se donne à connaître. Connaître le bon Dieu. Le bon Dieu sait bien que nous ne sommes pas que des purs esprits. Et pour le connaître, nous n'avons pas besoin seulement, nous ne nous satisfaisons pas seulement de grandes vérités théologiques comme Dieu est parfait, Dieu est infini, Dieu est bonté. Mais nous avons besoin de ces réalités sacramentelles, de ce signe, de ce sacrifice de la Sainte Vierge Marie, de toute l'Église, de la partie incarnée de l'Église, de la partie matérielle de l'Église, de tous ces signes qui sont autour de nous, pour nous faire connaître le bon Dieu, pour qu'il se révèle à nous. Et dans la Sainte Eucharistie, c'est un côté du bon Dieu qui se révèle. Un côté, façon de parler, nous avons vu, le bon Dieu n'a pas deux côtés, il n'a pas deux aspects, mais c'est le bon Dieu qui se révèle à nous dans ce qu'il a de caché, d'humble, de désireux de se donner à nous, de charité. L'Eucharistie est le sacrement de la charité par excellence. Dieu caché, sous les apparences du pain et du vin, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà Dieu caché. Alors qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est d'abord un sacrement. La messe n'est pas un sacrement au sens théologique du terme. Elle est un sacrement au sens de mystère, mais elle n'est pas un sacrement au sens théologique du terme, au sens où il y a sept sacrements. C'est l'Eucharistie qui est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? En deux mots, c'est un signe sensible de la grâce. C'est un signe sensible de la grâce. Et l'Eucharistie est un signe sensible de la grâce. C'est notre Seigneur qui nous le dit. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Là, nous avons le sacrement. Nous avons le signe. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Et nous avons la grâce. Qui est lié à ce signe. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Voilà la grâce. L'Eucharistie est un sacrement. Les vrais signes dans notre vie chrétienne, ce sont les sacrements. Il ne faut pas trop chercher des signes en dehors. Des signes imaginaires. Il y a des signes, le bon Dieu nous conduit par des signes en dehors des sacrements. Telle rencontre, tel événement dans notre vie peut être un signe de la volonté du bon Dieu sur nous. Un signe d'une grâce qui nous a été donnée, sans être un sacrement. Mais il ne faut pas trop voir de signes. Parfois nous sommes tentés de trop voir des signes. Les vrais signes, ce sont les sacrements. Et qu'est-ce qui est signifié dans la Sainte Eucharistie ? C'est la vie surnaturelle, l'augmentation de grâce. Et qu'est-ce qui est signe ? Le pain et le vin, qui sont l'enveloppe, pardon. Ce qui est signe, ce sont les apparences du pain et du vin. Je vais finir brûlé. Il paraît qu'on a droit à 4 hérésies. Quand on prêche en 10 minutes, on a droit à 4 hérésies. Donc quand on parle 50 minutes, ça fait 4 fois 5, 20 hérésies. Donc je ferai écouter ça par des confrères et puis peut-être que je serai envoyé en Alaska ou... Le signe, ce sont les apparences du pain et du vin. Et ce qui est signifié, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie spirituelle. De même que la nourriture terrestre donne la vie terrestre, de même la vie, la nourriture de l'Eucharistie donne la vie surnaturelle. Mais vous savez que notre Seigneur est présent, comme le dit, je crois, le Concile de Trente, vraiment, réellement et substantiellement, sous les espèces, c'est-à-dire sous les apparences du pain et du vin. Et c'est lui qui, en étant reçu en nous, par la communion, nous donne la grâce. Donc, il y a les apparences du pain et du vin. Sous les apparences du pain et du vin, le corps et le sang, et par conséquent l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons tout cela en nous, par la manducation. Donc en nous, nous avons les apparences du pain et du vin, le corps et le sang et l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, substantiellement. Et notre Seigneur Jésus-Christ, présent en nous, y produit la grâce. Et voilà pourquoi la Sainte Eucharistie est le signe de la grâce, comme tout sacrement. Et quels sont ses effets ? Quelle grâce exactement ? Comme tout sacrement, la Sainte Eucharistie augmente en nous la grâce habituelle, la grâce sanctifiante, ce que notre Seigneur, mon Seigneur, appelait dans sa conférence la gratia elevans, elevans, c'est-à-dire la grâce qui élève. Il y a une augmentation de la gratia sanans, la grâce elevans. C'est-à-dire une union à notre Seigneur, tout simplement. Nous sommes unis à notre Seigneur, pas seulement par une présence sacramentelle de notre Seigneur en nous, dans notre estomac, mais par une union spirituelle, qui est bien plus importante. Il y a bien sûr la remise des péchés véniels. Remise des péchés véniels et de la peine due au péché en partie. Préservation des péchés futurs également. Voilà les effets de la Sainte Eucharistie. Je vous dis en passant une opinion théologique qui est tenue par certains théologiens, il semble que ce soit l'opinion de saint Thomas, qui est la suivante. Lorsqu'une âme s'approche de la Sainte Table, qu'elle est en état de péché mortel, mais qu'elle est persuadée d'être en état de grâce. Elle se trompe. Elle est persuadée qu'elle a fait une confession valide, mais en fait, elle se trompe. Donc elle est en état de péché mortel, mais elle est persuadée en état de péché de grâce. Elle est en état de péché mortel, elle est persuadée d'être en état de grâce. Comme elle est en état de grâce, elle va communier. Eh bien, l'opinion dont il s'agit dit que, à ce moment-là, au moment de la communion, son péché mortel lui est remis. Et elle retrouve vraiment l'état de grâce. Fermons la parenthèse. Alors je vous rappelle rapidement les dispositions pour communier. Bien sûr, il faut être en état de grâce, puis il faut être à jeun. Alors au sens strict, il est demandé, sous peine de péché, le jeûne depuis une heure avant la communion. C'est ça. Mais on conseille 3 heures. On conseille 3 heures, sans péché, mais sans obligation, sous peine de péché. Mais on conseille 3 heures, et c'est même bien de faire le jeûne depuis minuit, quand on peut. Alors là, ça dépend de beaucoup de choses. Alors comment recevoir la Sainte Communion ? Les dispositions pour bien recevoir la Sainte Communion, vous les connaissez tous, vous les connaissez toutes, c'est... Les dispositions spirituelles pour recevoir la Sainte Communion, l'humilité, bien sûr, l'humilité. On va recevoir le bon Dieu, c'est pas rien. Alors il faut faire attention à la routine. Bon, on va pas communier de façon routinière, il faut un grand respect, une grande humilité. La foi. Faire des actes de foi. Seigneur, je crois que vous êtes présent là. La charité qui se traduit par un désir. C'est souvent ça qui manque. C'est le désir de communier. On y va, mais le désir est faible. Toujours pareil, parce qu'on compte trop sur nos propres forces dans la vie spirituelle. Alors on dit, bon, ça va m'apporter des grâces, c'est vrai, mais bon, le temps que je communie, je suis toujours un pauvre type, ça n'a rien changé. Alors bon, je vais quand même communier, parce que si je communie pas, qu'est-ce que ça va devenir? Il vaut mieux aller communier, mais bon, alors on communie, et puis comme on a peu de désir, le bon Dieu nous apporte peu. On dit que la Sainte Eucharistie donne 2 sortes de fruits. Elle donne un premier fruit au moment où la Sainte Eucharistie arrive en nous, concrètement dans notre ventre. À ce moment-là, il y a un fruit qui est donné ex opere operato, c'est-à-dire du fait que c'est un sacrement. Bon. Et ça, il est donné infailliblement du moment qu'on a les dispositions requises, être à jeun en état de grâce. Bon. Mais ensuite, juste après, pendant tout ce temps qui suit le moment même de la réception, c'est-à-dire la fin de la messe, l'action de grâce, alors ce n'est plus ex opere operato, c'est ex opere operanti, c'est-à-dire que ça dépend de nous. Alors si nous sommes distraits, on ne reçoit plus rien. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut être fervent. Souvent, on fait des grands efforts de ferveur jusqu'à la communion, puis après la communion est passée, allez, je suis crevé maintenant. Hein. Alors, ça suffit, bon, j'ai assez prié, j'ai assez fait d'efforts, Seigneur, à vous de jouer. Non, pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Non, c'est le moment le plus important. Notre Seigneur est là. C'est le plus grand moment de la journée, après la consécration. L'acte de foi, d'expérience, acte de charité, dans ces grandes demandes qu'on fait à notre Seigneur, pour nous, pour l'Église, pour les besoins de l'Église, pour les pécheurs, pour les missions, pour les malades, pour les pauvres, pour notre famille, c'est là qu'il faut demander les choses. Qu'est-ce que notre Seigneur peut nous demander, peut nous refuser ? Lorsque nous avons quelque chose à demander à quelqu'un, nous savons que le mieux, c'est d'aller le voir. C'est plus efficace que de lui écrire ou de lui téléphoner. Eh bien là, nous avons notre Seigneur là. Et non seulement il est auprès de nous, mais il est en nous. C'est le meilleur moment de lui demander. Et attention, si nous ne faisons rien à ce moment-là, le bon Dieu ne nous donnera pas grand-chose. Ex opere experantis. Ça dépend de nos dispositions. Il y a quelques jours, j'étais à Notre-Dame de Pontmain. Il faut méditer sur ces quelques paroles de la Sainte Vierge à Pontmain. C'est magnifique, c'est court. Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Et c'est ça, mon fils se laisse toucher. Mon fils se laisse manger. Mon fils se laisse toucher. Mais priez, mes enfants, au moment où vous recevez la Sainte Eucharistie. Mais priez. Mais, ce « mais », c'est une adresse de la Sainte Vierge. Vous ne priez pas assez. Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Si vous priez au moment où vous recevez la Sainte Eucharistie, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Gustate et videte, quoniam suavises dominus. La Sainte Eucharistie. Goûtez et voyez comment le Seigneur est bon. Mon fils se laisse toucher. Il se laisse toucher, il daigne se laisser toucher. Alors j'y vais pas qu'en fanfaron. J'y vais avec humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, devant qui mille et un, des milliards d'univers sont comme une goutte, se laisse toucher, se laisse manger par moi. Alors, qu'est-ce que je vais lui demander ? Il va m'exaucer en peu de temps. Hein ? Il faut cette foi, cette confiance dans la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, comme la Sainte Communion, comme toutes nos prières, sont souvent peu efficaces à cause de notre manque de confiance. On n'a pas assez foi dans la puissance de Dieu. Mais priez, mes enfants. Dieu se laisse toucher. À la Sainte Eucharistie, c'est là qu'il faut demander les grâces auxquelles on tient le plus. Si vous avez par exemple un défaut dominant dont vous ne voulez pas vous débarrasser, si vous ne voulez pas vous en débarrasser, demandez de vouloir vous en débarrasser. Si vous voulez vous en débarrasser, demandez-le à Sainte Communion. Seigneur, je suis paresseux. Seigneur, guérissez-moi de ma paresse. Si on veut demander la perfection chrétienne, demandons-le à la Sainte Eucharistie, à la Sainte Communion. Seigneur, donnez-moi la sainteté. Je ne sais plus quel saint passait la deuxième moitié de la journée à préparer la communion du lendemain et la première moitié de la journée en action de grâce. Et je crois que c'était Sainte Thérèse d'Avila, il me semble, ou Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, je ne sais plus, qui, lorsqu'elle avait fait une mauvaise action de grâce, l'action de grâce qui suit la messe, pour se racheter, passait toute la journée en action de grâce. Et nos actions de grâce, on pourrait en parler aussi, comme elles sont tièdes. Là, il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, par exemple, il faut prendre un livre, ça dépend. Ou alors, il ne faut jamais prendre de livres, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend des moments. L'important, c'est que ça se passe bien, c'est-à-dire que l'action de grâce soit fervente. Voilà. Alors, tous les moyens seront bons pour cela. Les moyens importent peu, ce qui importe, c'est la fin. Donc, si à tel moment, je n'ai rien à dire au bon Dieu, vraiment rien, je l'écoute. Et si vraiment je suis distrait, je prends un livre. Je prends une de ces magnifiques prières qu'il y a sur l'action de grâce du Padre Pio. Les litanies de l'humilité, les magnifiques prières que vous trouvez dans le livre bleu, mais et surtout les prières de la messe elle-même. Les prières de la messe elle-même. Hein. Et puis, mais la meilleure action de grâce, c'est sûr, c'est celle qui est plus libre, sans livre, qui est personnelle. Là, il ne faut pas compliquer, c'est comme pour la prière, c'est un entretien de l'âme avec le bon Dieu. Si j'avais notre Seigneur Jésus-Christ en face de moi, là, dans la chapelle, en face de moi, présent, qu'est-ce que je lui dirais, comment ça se passerait? On ne se compliquerait pas la vie, vous savez. Parfois, on ne ferait que poser les yeux sur lui, en adoration, avec amour. Eh bien, notre action de grâce peut être ça, simplement. Ou bien on l'écouterait. Et donc, notre action de grâce, ça peut être ça, ça serait l'écouter. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par écouter, parce que souvent, on voit dans les livres de piété, dans les instructions, on entend écouter le bon Dieu, parler au bon Dieu dans la prière. Bon, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire cette précision, mais on ne sait jamais. Il ne s'agit pas d'écouter matériellement. Non, parce que, bon, parfois, en tout cas avec les enfants, je suis dans une école, mon apostolat se situe dans une école, parfois les enfants, ils ne comprennent pas. Parce que l'enfant n'a pas le sens, ce qu'on appelle l'analogie, vous voyez. Il ne fait pas la différence. On dit, écoute le bon Dieu dans la prière. Alors, il ferme ses oreilles, j'entends rien. Parle au bon Dieu. Alors, il parle, il dit, mais je ne sais pas s'il a entendu. Alors, il faut expliquer que non, ce n'est pas cette écoute-là. Alors, comment c'est l'écoute? C'est les grâces de lumière. Le bon Dieu éclaire notre intelligence. Et c'est comme ça qu'on écoute le bon Dieu. Donc, le bon Dieu éclaire notre intelligence, ce qui peut se faire de deux façons. L'état normal des âmes, hein, habituel, c'est les vertus théologales. Et donc, le bon Dieu, je le prie. Et ensuite, je l'écoute, c'est-à-dire, j'essaie de me tenir à sa disposition et de voir ce qu'il veut de moi. Et donc, il y a un exercice de l'intelligence. Hein, je réfléchis, qu'est-ce que mon Dieu veut de moi? Et je sais qu'il m'a donné des lumières de grâce, donc ma réflexion sera aidée. Et c'est ça, la grâce de lumière, l'écoute. Qu'est-ce que Seigneur voulait de moi? Je me tiens à votre disposition, il me semble que c'est plutôt ceci, plutôt cela, etc. Ça, c'est l'écoute, mon Dieu. Bon. Le deuxième mode, qui est un mode supérieur, mais qui est. C'est le mode des dons du Saint-Esprit. Alors là, bon, c'est autre chose. Le bon Dieu agit, nous, on n'agit plus. Alors, ça, c'est l'écoute. Bon. Parler au bon Dieu, ben, c'est tout simplement parler, mais avec le langage de la foi. Hein. Sinon, après, on a des enfants qui viennent, monsieur l'abbé, j'ai une apparition. Pendant la communion, pendant la messe, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses extraordinaires. Alors peut-être qu'il y en a, c'est vrai, hein. Peut-être. Il n'y a pas qu'à Pontmain. Enfin. Alors voilà, donc communier comme cela. Il faut donner une grande importance pour conclure dans notre vie spirituelle à la messe et la communion. Hein, une grande importance. Toute la spiritualité de Monseigneur Lefèvre est là. Ah, j'ai encore 5 minutes. Je vais en profiter pour vous lire quelques petits paragraphes du livre extraordinaire du Père Paul Philippe, qui est un dominicain, La Très Sainte Vierge et le Sacerdoce. Alors, c'est un livre qui traite des rapports entre la Très Sainte Vierge Marie et le sacerdoce de son fils et le sacerdoce des prêtres. Mais ça ne s'adresse pas qu'aux prêtres. Et ce qui est là-dedans est magnifique, et peu, si vous avez l'occasion de tomber sur ce petit livre qui est court, mais je vous assure que c'est dense, hein, c'est du beefsteak. Hein. Si vous le lisez, il faut le lire lentement, hein, et le prier tout entier. présence de la Sainte Vierge Marie au pied de la croix, et donc modèle de notre présence à la messe. Ce n'est pas par la souffrance physique que la très Sainte Vierge Marie collabora à la passion, à la croix. Elle apportait au Christ quelque chose qu'il a voulu recevoir d'elle, qu'elle le consola et qu'elle l'aida dans sa passion. Il voulut avoir à côté de lui un cœur très pur, une source d'eau vive, qui ne connut jamais le péché, et qui compensa par sa simple présence tous les péchés du monde. À la croix, il y avait au moins une créature qui comprenait parfaitement le mystère du cœur de Jésus, qui pénétrait jusqu'en son intime l'âme sainte de Jésus. Marie était de là, debout, comme le chef-d'œuvre de son sang. L'union de la très sainte Vierge avec notre Seigneur à la croix est uniquement une union de charité. Et voilà comment nous devons assister à la messe et recevoir la Sainte Eucharistie. Il n'y a rien d'autre, mais c'est là tout le mystère de la compassion. Il n'y a rien d'autre que la charité, mais la charité est une amitié. Marie épouse, voilà, le cœur. Marie épouse tous les sentiments du Christ crucifié pour son Père et pour l'humanité. Et nous, à la messe, il s'agit d'épouser les sentiments du Christ crucifié. Elle s'unit par son cœur à elle, et rien que par son cœur, à l'acte d'amour qui a jailli du cœur de Jésus et qui a suffi à opérer le salut du monde. Il y a vraiment fusion des cœurs, intimité qui tend à l'unité dans l'ordre même de l'amour. Elle entre dans l'intimité de la vie intérieure de Jésus, selon cette loi de mutuelle compénétration des cœurs et des esprits. La Vierge n'est pas prêtre au sens sacramentel du mot. Elle est à côté du Christ, elle est la reine reposant près du roi, l'épouse du grand prêtre, communiant par son cœur, par son amour, à tous ses vouloirs et à tous ses actes sacerdotaux. La très sainte Vierge offre vraiment notre Seigneur à son Père à la croix, comme elle l'a offert au Temple. Elle l'offre en s'unissant à l'oblation sacerdotale que Jésus fait de lui-même pour la rédemption du monde. Notre Seigneur attend cela d'elle, comme il l'attend de tous les chrétiens. C'est la page 47. Et à la page 77, quel sera le rôle de la très sainte Vierge dans la Passion ? Une aide semblable à lui-même, comme dit saint Albert le Grand. C'est par son union de charité avec le Christ, par son cœur immaculé qu'elle est notre mère, comme c'est par son cœur sacré que Jésus nous a engendrés à la vie. Je crois que là, c'est une façon admirable d'assister à la messe, d'y voir le cœur de Jésus qui s'offre pour nos cœurs à nous. Le cœur immaculé, douloureux, de la très sainte Vierge Marie qui est présent là, qui offre le cœur sacré de Jésus, qui offre son cœur de chair en sacrifice, et qui s'unit au cœur sacré de Jésus dans un unique sacrifice. Et nous-mêmes, il nous faut nous unir au cœur de la Sainte Vierge Marie, au cœur sacré de Jésus qui offre ce sacrifice. Voyez. Assister à la messe, unis au cœur de la Sainte Vierge Marie, au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, unissant ces trois cœurs dans une unique oblation. C'est vraiment un mystère d'union, un mystère de la Sainte, du Saint Sacrifice et bien sûr de la Sainte Communion.